Mémoire du Couseran, nous allons continuer avec Raymond Gabart et sa mémoire à explorer les quartiers de Saint-Girons. Et on va s'arrêter vers un des plus vieux quartiers, le quartier de Saint-Vallier. Raymond, bonjour.
Eh bien oui, bonjour. Ce bonjour traditionnel donc, pour tous nos auditeurs, dont beaucoup sont très fidèles, et ce depuis plusieurs décennies. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir, pour certains, ou redécouvrir pour d'autres, la vie d'un quartier de notre cher Saint-Girons. Et ce quartier qui fut fort longtemps un des plus populeux, car y ont vécu des familles parfois très nombreuses, mais j'ajouterai surtout, j'en reparlerai de ça, très nombreuses, très modestes, pour ne pas dire même miséreuses. Voilà. Et pourtant, c'était encore le temps où on ne parlait pas de délinquance, de dégradation ou autres incivilités. Et alors pourquoi? Et ce, parce que les enfants de ces familles étaient tenus par des parents qui n'avaient pas une énorme éducation, ces parents, mais qui avaient quand même du respect. Et il m'est difficile aujourd'hui de vous donner des noms de ces familles, j'en parlerai quand même, hein, modestes mais, comme on dit, travailleuses. Mais avec le recul quand même, je puis vous dire que pratiquement toutes ces familles et tous ces enfants se sont parfaitement intégrés dans la vie saint-gironaise, couseranaise, en faisant des carrières remarquables dans tous les domaines. Même certains ont eu une réussite enviable, exemplaire, et même, j'ajouterai, de très grandes réussites. Voilà. Et ce, par leur travail, bien entendu, leur pugnacité, et puis surtout leur sérieux. Alors tout cela, pour vous donner donc, des précisions quant au nom que l'on avait attribué à ce quartier. Et ce quartier qui, ça pose beaucoup de problèmes, on me pose régulièrement, ce quartier qui est normalement le quartier de Saint-Vallier, c'est-à-dire tout autour de l'église, mais aussi de la rue qui rejoint la place du centre, donc jusqu'à cette église. Alors ce quartier avait été baptisé il y a fort longtemps le quartier de l'Andorre. Et alors ça, c'est rentré dans les têtes de mes auditeurs, mais ils se posent toujours encore beaucoup de questions. Alors j'ai retrouvé ce nom, moi, d'Andorre, de quartier d'Andorre, dans des journaux d'une époque assez lointaine, c'est-à-dire des années 1875-1880, oui, je remonte assez loin. Et comme je viens de vous le décrire, ce quartier, et ce, depuis la fête du 19e siècle, certainement même avant, était pour de multiples raisons donc très miséreux. Même un des plus miséreux de la capitale du Couseran, avec des logements bien souvent insalubres, où s'entassaient des familles nombreuses, avec 4, 5 enfants, parfois plus. C'était quand même une population laborieuse, avec des manutentionnaires, on appelait ça des brassiers, et ils travaillaient avec leurs bras, des brassiers. Les femmes s'occupaient donc au ménage, s'occupaient des enfants, bien entendu. La plupart avaient un petit coin de jardin. Et même certaines familles faisaient venir, entre parenthèses, un ou deux cochons. Et on gardait un, on en vendait un autre. Les hommes faisaient de petits boulots, ou encore exerçaient donc, certains, ce qu'on appelait petits métiers. Et livreurs de charbon, récupérateurs, chiffonniers, marchands de peaux d'animaux. Souvenez-vous, il y a un an ou deux ou trois, je vous avais parlé de ces célèbres foires à la Sauvagine, donc, et qui se trouvaient aux alentours du monument actuel de Aumont. Hein, à l'époque, il n'existait pas, le monument Aumont. Et sur les trottoirs également alentours, et ça se passait deux, trois fois par an. Alors on y vendait quoi? Des peaux de lapin, de putois, des loirs, des cureuils, de renards. Et comme quoi, il y a fois, ils venaient, les gens, les acheteurs, des boîtes assez importantes venaient de Toulouse. Hein. Et alors, comme quoi, il y a fort longtemps, déjà, oui, on n'a rien inventé, tout se récupérait, tout se négociait. Et ainsi, à force de volonté, de pugnacité, donc, et surtout l'envie de s'en sortir, donc par le travail, uniquement par ça, et il n'y avait pas les aides qu'on connaît actuellement, beaucoup de familles, petit à petit, ont réussi à se sortir, donc, comme on dit, de cette situation. Voilà. Et même, j'ajouterai entre parenthèses, il y en a qui ont fait fortune, voilà. Et moi, je dis que c'est une belle leçon, surtout par les temps qui courent, d'autant qu'il n'y a aucune honte à être passé par ces périodes difficiles, mais au contraire, à en être fier. Mais alors, vous vous posez peut-être la question, et on revient toujours là, pourquoi l'Andorre ? Et alors, cette appellation que j'ai retrouvée dans ces journaux anciens, je crois qu'il y en avait une, ça s'appelait, Louis, c'est celui-là, les Côtes Pyrénéennes. Et un journal, je crois, des années 1880, les Côtes Pyrénéennes, qui était quand même imprimé à Saint-Girons, et malgré le titre, c'était un quotidien ou un hebdomadaire, ou plutôt Saint-Gironnais, comme il y en avait une multitude. Et dans plusieurs articles, j'avais retrouvé qu'on évoquait la fête de l'Andorre. La fête de l'Andorre, et ce, autour de l'église de Saint-Vallier. Comme quoi, donc, malgré la situation de ce quartier, on avait quand même le sens de la fête. C'était un rituel, donc, annuel, qui a perduré quand même jusqu'aux années 52-53, pardon. Cela aussi, j'avais retrouvé, en 52, je crois, un article... Ou encore, avec bien détaillé d'ailleurs, où encore on faisait, aux alentours du mois d'août, la fête du quartier de l'Andorre. Voilà. Mais il faut savoir que l'Andorre, dans la principauté, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, était un pays voisin, donc, mais ce n'était pas l'Andorre que nous connaissons. C'était un pays très miséreux. Il y a eu coincé entre l'Espagne et un peu la France, et donc il n'y avait pratiquement pas de ressources, aucun équipement, sans route carrossable, hein, il y avait des routes en terre battue, donc enclavées, et c'est peut-être pour un temps fort lointain, on ne sait qui, on ne sait pas exactement quand, pour des raisons ou les raisons précises, qui ont fait que peut-être en comparaison donc avec la situation de cette Andorre, bon, c'était pas une principauté comme maintenant, notre quartier populaire de Saint-Vallier fut appelé, mais sans moquerie quand même, hein, on dirait de nos jours sans discrimination, l'Andorre. Voilà. Et l'Andorre de Saint-Girons et l'Andorre de la Principauté. Et d'ailleurs, ces divers habitants non, de ce quartier, de l'Andorre de Saint-Girons, au cours des décennies, en convenaient, et bien souvent, et moi surtout, ce que je vous raconte, c'est d'après des témoignages que j'avais recueillis il y a fort longtemps, avec humour, les gens parlaient de ce quartier. Et c'est tellement vrai que cette expression est restée fort longtemps, tout au moins jusqu'à la fin des années 50, début des années 60. Voilà, et c'est pour ça qu'on y a fêté fort longtemps. Après, ça a été les feux de Saint-Jean, hein, comme il y avait énormément de fêtes de quartiers, et les quartiers qui étaient tous baptisés. Il y avait en ville la fête du quartier du Campas, de Villefranche, du boulevard Frédéric Carnot, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, et que je reparlerai. Le plus célèbre fête également était celle du quartier Belleville. Il y avait le quartier de Lédard également qui avait sa fête. Et puis aux alentours de la période de la Saint-Jean, donc, beaucoup également faisaient une petite fête avec un brandon. Mais il ne faut pas oublier aussi que depuis 1940, peut-être certainement même avant, il ne faut pas l'oublier, le Balai-Joux. Et le Balai-Joux, donc, la fête du Balai-Joux, donc, qui a perduré, qui perdure encore, bon, de façon différente, voilà. Et toutes ces fêtes, qui duraient 2-3 jours, donc, qui mobilisaient encore, il y a encore une dizaine d'années, ou même plus 20 ans, il y avait des fois, parfois, 2-3 petits orchestres, ou même des bons orchestres, hein, donc, qui assuraient les bals, et surtout l'ambiance, c'est ça qui comptait. Mais revenons à Saint-Vallier. Alors nous sommes en 1952, donc vous allez voir, nous sommes les 9 et 10 août, et également 11 août, et 1952, on a décoré, mais surtout en guirlandais, toute la place de l'église, où est positionnée une estrade, Alors, ce n'est pas un véritable podium. En effet, c'est le plateau d'un gros camion de livraison de la brasserie à miel qui a été magnifiquement décoré, style champêtre, je dirais. Et comment ça se faisait, avec du buis, des roseaux, des fleurs, vous voyez, c'était vraiment très simple, mais très gai. Il y avait, bien sûr, des lampions, à l'époque, lampions multicolores, et tout autour d'un grand mât, aux couleurs de Saint-Jérôme, parce qu'il y avait pas mal de... à l'époque, on pavoisait, jaune et bleu, et au bout desquels flottaient des oriflammes de même couleur, de cette couleur de la ville de Saint-Jérôme, il faut remettre en service, comme on dit, et c'est quand même le bleu et le jaune, voilà. Et que je m'aventure même à dire que la plupart des personnes qui ont disons, dirigé la fête, la ville de Saint-Jérôme, il y en a beaucoup qui ne savent même pas les couleurs de la ville, vous voyez. Moi, j'ai discuté, je peux l'affirmer, ça. Et donc, ça fait partie aussi, quand même, de l'histoire de Saint-Jérôme. Donc, pour revenir à Saint-Vallier, on avait fait vraiment une belle décoration, et c'est une façon de marquer son territoire aussi. Et dans cette place, alors qui s'étale quand même pratiquement du bout du Champ de Mars, de l'actuel poste, s'apprêtait à recueillir, comme dans toutes ces fêtes de quartier, une grande foule. Et croyez-moi, il y avait de la foule qui était venue là pour se distraire, s'amuser, mais surtout danser. On dansait. Et tout autour de petites tables rondes en fer, vertes, peintes en vert, sur des chaises pliantes en bois, vertes également. Et c'était tout le matériel que prêtait donc la grande brasserie à miel, qui était une des plus importantes de l'Ariège. Et alors, c'est entre les roseaux, tout ça, vous voyez, il y avait une gaieté, vous voyez, qui régnait dans cette chose, dans cette place, avait forcément une petite buvette, et tout cela gracieusement mis à disposition non par Monsieur Lasserre, le patron de la brasserie, et puis même il lui arrivait parfois de prêter les ouvriers pour finir le montage, voilà. Alors il y avait même quelques forains avec des tirs à la carabine, petites balançoires avec des bateaux, là j'ai retrouvé une photo qui avait été prise dans ce coin là, avec des balançoires, c'était des petits bateaux où on balançait les tout jeunes enfants, et puis comme l'avait annoncé la publicité, donc toujours dans ce journal local, il y avait le concours très réputé, donc du réputé orchestre des Diables Rouges. Et oui, les Diables Rouges, et c'était composé de musiciens de grand talent, tous couseranais, Saint-Jérônais, couseranais. Alors je vais vous donner quelques noms parce que ça me plaît. Moi, j'ai adoré ces personnes avec qui j'avais lié des liens d'amitié, comme Claude Estac, Marcel Piquemal, Abel Lagarde, qui m'écoute régulièrement à la cave, Monsieur Gazovignon, qui est devenu par la suite correspondant de la Dépêche, Dante Boldarino, Durand, Porte. Alors, bien entendu, jouaient en alternance, ils étaient 4, 5, 3 des fois. C'était l'époque de véritables balles aussi. Et avec une musique variée, une musique joyeuse, et de belles mélodies, bien sûr, et puis une musique entraînante. Et qu'est-ce que demandaient les gens, voilà. Alors voilà, en résumé, l'histoire du quartier de l'Andorre, définitivement maintenant devenu le quartier Saint-Vallier, et qui a connu une intense quand même activité, avec sa très longue rue, où l'on a compté jusqu'à 35 à 40 commerces ou petites artisanales. Et on y trouvait absolument de tout, ça je le détaillerai, à tel point d'ailleurs que les habitants, quand ils sont devenus un peu plus aisés, un peu avant et après-guerre, auraient pu y vivre en parfaite autarcie. Eh bien oui. Et ainsi, jusqu'aux années 60, 70, parce que les choses avaient évolué quand même, et parce que dans ces années-là, il y a eu l'arrivée massive, je dirais très nombreuse, de Portugais. Et de Portugais, il y en a eu, je ne sais pas, 200, 300, peut-être même plus, 400 dans le Saint-Gironais en général, mais surtout dans le centre de Saint-Gironais. Et ce quartier, qui était tombé un peu, a repris vie, avec de nombreuses familles qui s'y sont installées. Et tous ces émigrés, entre parenthèses, se sont parfaitement intégrés, d'autant qu'ils étaient venus en France pour y travailler. Et alors, comme moi, comme maçon, manœuvre, chauffeur, jardinier pour les hommes, ou femme de ménage pour toutes les jeunes filles ou les femmes. Et aujourd'hui, on peut affirmer qu'ils ont tous bien réussi, leurs enfants également. Ils ont, eux, contribué à faire vivre ce quartier, à créer une certaine richesse dans le Couserans également, en parfaite entente, bien entendu, avec les autochtones, et surtout en étant très respectueux. Et alors, tout ce qui est loin de se passer de nos jours, hein, on peut l'ajouter, ça. Mais j'y reviendrai, là, pour vous donner une idée de ce que fut cette artère de la ville. Pour ceux qui ont un peu oublié, parce qu'il y en a qui l'ont connu, qui ont oublié, puis tout d'un coup, il y a des souvenirs qui remontent, donc. Et pour tous ces gens, maintenant, mais la plupart du temps, c'est très peu à pied, mais qui l'empruntent depuis quelques années en voiture, hein, parce que c'est, on les laisse par le boulevard ou cette rue pour rentrer au centre-ville, tout le quartier de l'autre, et puis le quartier du lycée du Couserans. Et donc, cette artère de la ville, moi, je dis, le mérite bien. Et une rétrospective, un peu comme un inventaire de toutes les activités qui ont pu y avoir, et des petits artisans, des professions libérales également, beaucoup de commerces, qui faisaient de ce lieu un lieu très animé. Et où a longtemps régné aussi une vraie convivialité. Alors moi je vous dis, quand on était gosse, il y avait quand même, on restait dans nos quartiers, mais bon, le quartier du boulevard, le quartier Saint-Vallier, on faisait des concours de pétanque, on faisait des petits matchs de rugby sur la place, il n'y avait pas de voiture, hein. Donc on se mélangeait bien dans ce quartier. Et ça faisait toujours une belle animation. Alors, n'oubliez pas non plus que, on revient très en arrière là, que dans les années 1850-60, dans un imposant et beau bâtiment aussi, et de la ville, qui avait été construit à peu près dans les années 1860, des 58-60, il y avait l'hôpital. Et à l'époque, c'était un bel hôpital, et puisque la bâtisse, on la voit encore. Hein. Pour l'époque, c'était un très, très, très bel hôpital. Il y a eu également, entre 1890 et 1900, il y avait une distillerie. Ben oui, il y avait une distillerie, comme il y en avait d'ailleurs plusieurs à Saint-Girons. Et moi, je vais même retrouver une photo où il y a actuellement la poste, il y avait un grand mur où il y avait marqué distillerie, ça avait peut-être le dépôt là, et une vieille bâtisse en pierre. Hein. Voilà. Et puis il y a l'église Saint-Vallier, classée monument historique. C'était, comme on dit, la paroisse de Saint-Vallier, qui a eu longtemps son sonneur de cloche, de père en fils d'ailleurs, mais aussi une excellente chorale. Il y a eu une excellente chorale qui rivalisait d'ailleurs avec celle de Saint-Girons, qui était encore plus importante, et puis surtout celle de Lézard. Et croyez-moi, il y avait un sacré chanteur, et quand il y avait des messes chantées, je veux dire, c'était à celle qui donnait le maximum, voilà. Et oui, voilà, la capitale du Couserans, on dit Pamiers la cité aux trois clochers, mais le Couserans, la Saint-Girons, a ses trois clochers également. Et alors, c'est l'église Saint-Vallier, du nom du premier évêque de Saint-Nizier, qui s'appelait Vallier, et qui la baptisa, donc, cette église date, je pense, du XIIe siècle, voilà. Alors, je crois savoir, à ce sujet d'ailleurs, qu'elle va faire l'objet d'une restauration, avec d'importants travaux, en extérieur et à l'intérieur, puisque c'est programmé pour donner à cette bâtisse quand même un certain cachet qu'elle avait perdu, et la mettre ainsi plus en valeur, c'est aussi quand même quelque part sauver le patrimoine. Et parce qu'on en parle depuis deux décennies, même davantage, de la restauration de cette église, et bien je pense que ce serait éminent, voilà, et il est bon de l'annoncer. Et on ne peut que s'en réjouir d'ailleurs. Alors il y a eu également dans ce secteur un prieuré, oui. Et alors mes recherches, parce que quand même j'essaie toujours de pousser un peu plus loin, m'ont permis de répondre à des interrogations, la mienne la première, mais des interrogations d'autres auditeurs, quant au nom d'une petite ruelle derrière l'actuel poste qu'on appelle la rue du Prioulache. Eh bien, la rue du Prioulache, ce nom vient par rapport au fait qu'il y ait eu dans ce quartier un prieuré. Voilà, tout simplement. Et je me rappelle que M. Barbert, à l'époque, qui avait écrit sur les noms des rues de Saint-Jérôme un fort beau document, un livre, on avait cherché tous les deux, je n'avais pas pu lui donner une réponse, donc c'était une vingtaine d'années de ça, voilà. Et maintenant, c'est fait, voilà. Et alors, une autre ruelle, Tortueuse, à peu près à la moitié de la rue Saint-Vallier, pour rejoindre la place Gambetta, on appelle ça une venelle, vous voyez, également au nom de la rue Rouex, qui était à l'origine toute pavée, et où se trouvait d'ailleurs une remise à chevaux, et un relais de poste, une grande bâtisse à gauche, et c'était ainsi que moi j'avais vu quelques vestiges, dont en extérieur et en intérieur, donc c'était des pierres, disons, d'une en saillie, donc d'une quarantaine de centimètres de hauteur, mais de hauteur plate, et ces pierres servaient comme marchepied pour monter plus facilement les chevaux. Et également, dans cette grande maison, il y a une cour intérieure. Et moi, la dame, la propriétaire, j'étais allé pour mon travail, m'a fait remarquer qu'il y avait de gros anneaux forgés, fixés au mur, donc, ces anneaux qui servaient donc pour attacher les chevaux. Voilà, donc, vous voyez, cette maison, c'est privé, forcément. Voilà, donc, la rue Rouex. Mais, au-delà donc, de ces anecdotes, dans cette rue, dans l'angle de cette rue, il y a une plaque. Une plaque qui témoigne un drame. Ainsi, le jour de la libération de Saint-Jérôme, le 24 août 1944, c'est là que le commandant Plaisant, chef du maquis donc, de la région de Saint-Jérôme, a été tué par les Allemands. Voilà. Et donc, de cela, il faut le transmettre et il faut s'en souvenir. Donc, quand vous voyez cette plaque, vous saurez que pour la liberté, donc, monsieur René Plaisant donc, est décédé. Alors, reste, comme je vous l'ai annoncé, à remonter ou à redescendre, comme vous voulez, cette rue, pour lui redonner vie, de nos jours, lui redonner une âme peut-être, en évoquant toutes les activités qui ont pu y régner, en rappelant toutes ces familles modestes, misérables, je remets, mais laborieuses, qui ont longtemps habité et qui, durant de nombreuses décennies, donc, ont maintenu ce qu'on appelle une véritable vie de quartier, la vraie vie. Alors, le temps d'une émission, on oubliera, on occultera, que cette rue est devenue, et ce quartier de la ville, donc, ce qu'il est devenu, cette triste réalité. Et bien sûr, moi je dis que c'est une évidence encore que de dire c'était bien mieux avant. Alors retenons que les meilleurs souvenirs, je vous dis à bientôt.